Merci pour cette présentation dense, beaucoup d'informations évidemment. On va vous laisser la parole, quelques minutes à la salle. Moi, en tant que béotien, je suis très surpris par le chiffre que vous donnez, un enfant sur 100 qui naît aujourd'hui serait, comment dirais-je, porteur de troubles autistiques.
Alors, c'est une question compliquée, l'épidémiologie de l'autisme. Actuellement, aux États-Unis, il y a des études épidémiologiques qui diraient un enfant sur 65, en prenant les critères TSA du DSM-5. Un enfant sur 65, ça veut dire qu'on met dans le champ de l'autisme toute forme de trouble neurodéveloppemental avec des traits autistiques. Je ne crois pas que ça corresponde aux scores seuil qui sont indiqués, même sur le score le plus bas, puisque donc avec notre échelle ADOS, on a deux seuils, un seuil pour le trouble du spectre autistique au sens large et un seuil pour l'autisme infantile. Mais on a reproché aux Américains de vouloir, de manière générale, pas simplement dans le champ de l'autisme, vouloir faire entrer dans le champ de la pathologie des formes frontières, avec évidemment des accusations économiques. Est-ce que ça permettrait d'avoir beaucoup plus de consommation de soins? Est-ce que c'est instrumentalisé par l'industrie pharmaceutique, etc. Mais cela dit, je crois quand même qu'il y a une réalité qui est le fait qu'on reconnaît comme un trouble très compliqué sur le plan du développement des formes qui étaient plus subtiles à reconnaître, mais que malgré tout, les parents ou les autres enfants à l'école ou les enseignants reconnaissaient. Parce que la légitimité de ces diagnostics, même très extensifs, c'est que ce sont des personnes qui ne vont pas bien. C'est que quand on regarde ce qu'ils deviennent, c'est effectivement des personnes qui ne peuvent pas continuer leurs études. C'est effectivement des personnes qui ne trouveront pas de place professionnelle ou même dans leur autonomie. Voilà. Ça légitime effectivement qu'il y ait une revue à la hausse. Alors pourquoi ? Il y a quand même une raison qui n'est pas liée uniquement à la classification, puisque là, pour l'instant, M. Schmitt et vous-même, vous posez la question plutôt... Enfin, je l'oriente plutôt vers la classification. Mais il y a quand même la question d'un trouble neurodéveloppemental qui serait d'origine... toxique. Vous voyez, souvent on parle de problèmes génétiques dans l'autisme, mais ce qui inquiète le plus actuellement les personnes qui s'occupent de santé publique en termes de développement du fœtus ou des très jeunes enfants, c'est quand même les pistes plutôt toxiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait une augmentation de troubles neurodéveloppementaux en général, à cause des médicaments, à cause des polluants, etc. Vous savez par exemple que pour la dépakine, c'est un médicament maintenant qui a été interdit chez les femmes enceintes, et même de manière plus large, puisque il y a beaucoup, beaucoup de troubles neurodéveloppementaux. On a eu du mal à les repérer parce qu'au départ, on pensait que la dépakine donnait des malformations type spina bifida. Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ça donnait des retards mentaux, parce que c'est beaucoup plus tardif, évidemment, et parfois pas mis immédiatement en relation avec la cause, beaucoup plus tardif. Mais dans ces troubles neurodéveloppementaux d'enfants qui ont pris de la dépakine, des troubles autistiques.
Bien. Question de la salle. Levez la main, s'il vous plaît.
Juste par rapport, vous disiez dans la... Ah oui, pardon. Anne-Sophie Pernel, pédopsychiatre à Angers et représentante du SPH. À Angers, je suis aussi dans un CESAD précoce pour tout petits enfants autistes qu'on a pu obtenir le CESAM, donc la pédopsychiatrie publique, avec une institution médico-sociale, notamment grâce au fait que j'avais fait la formation ESDM. Et donc j'invite tous les directeurs de la salle à payer la formation ESDM, même si ça coûte très cher. Sincèrement, c'est un bon moyen de montrer que la pédopsie reste moderne, tout en respectant l'enfant, la globalité, etc. Je voulais juste faire une petite remarque sur la question le diagnostic différentiel avec les négligences. Parce que vous parliez dans les vulnérabilités des pouponnières de mauvaise qualité, c'est ce qu'on appelait l'hospitalisme, les bébés qui sont un peu laissés pour compte. Et des bébés qu'on retrouve dans les familles très en difficulté sur le plan socio-économique, mais elles sont en difficulté sur le plan socio-économique, parce que c'est des gens qui ont été négligés eux-mêmes petits, qui ont du mal à organiser un quotidien, etc. Je pense que c'est vraiment important de les différencier et pas de les mettre dans les TSA, parce que déjà le devenir est différent, la prise en charge est différente, notamment avec les parents, la guidance et le coaching qu'on peut faire dans les TSA, ça ne suffit pas du tout pour les enfants négligés. Et puis parce que ça crée des grandes tensions avec les associations de familles qui, quand on dit... qui pensent que du coup on dit que c'est leur faute si l'enfant est autiste, alors que justement on clame haut et fort qu'il faut bien différencier les deux catégories. Et dans les recommandations qui vont sortir, justement, la question du diagnostic différentiel est balayée et on a essayé de se battre contre ça avec le SPH et la CIP, la société scientifique, parce qu'en Angleterre, avec le NICE, ils ont bien fait le diagnostic différentiel. Il y a CAPAP aussi, en numérique avec la Coventry Grille. Ils font des grilles où ils séparent bien troubles de l'attachement en lien avec les carences, négligences, etc. et les troubles autistiques. Donc je me dis juste que c'est peut-être important vraiment de différencier ces catégories pour ces raisons-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Merci.
Pour le SDM, c'est le choix qu'on a fait aussi. Je pense que c'est vraiment une méthode intéressante pour garder un créneau sanitaire pour les jeunes enfants. Peut-être que les médecins n'auront plus beaucoup de place dans le médico-social. On voit du médico-social sans médical, malheureusement, actuellement. Mais le SDM sur le créneau des petits, puisque c'est une méthode pour les enfants très jeunes, ça me semble vraiment un bon choix. Pour les TSA et les TRAP, c'est différencié dans les classifications, c'est pas la même catégorie de troubles. Ce qui est très important, à mon avis, de repérer historiquement et en fait encore maintenant, c'est que ce qui n'est pas résolu, c'est comment fonctionne la vulnérabilité organique. C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait y avoir des vulnérabilités faibles qui entraînent des tableaux autistiques sévères et des vulnérabilités fortes qui pourraient presque pas se manifester par un trouble du développement. Et ça, c'est très compliqué. C'est la manière... Heureusement que c'est pour ça aussi qu'on est là. C'est parce que ce qu'on fait est efficace et ce que font les parents est efficace. Mais un parent n'a pas, a priori, toujours la compétence pour s'occuper d'un enfant autiste. Il n'y a aucune raison qu'il l'ait. Donc quand l'évolution spontanée des troubles autistiques, elle est mauvaise. Parce que si les parents ne sont pas guidés, ce n'est pas un trouble qui se corrige tout seul. Voilà. Et ça, c'est la question quand même de la part de la vulnérabilité et la part supplémentaire qui est extrêmement complexe. Alors, je parlais de Laurent Mautron parce que je trouve qu'actuellement, il dit des choses extrêmement importantes à partir de sa position au Canada, qui est très imprégnée de ce qui se passe aux États-Unis, qui est assez différente de ce qui se passe en France. C'est l'idée qu'il ne peut pas y avoir une seule forme de prise en charge qui fonctionnerait pour tous les enfants. Et qu'on est obligé d'individualiser les soins bien plus que ce que certains courants de pensée voudraient le faire croire. Mais justement parce que la question de la vulnérabilité, après, elle va s'exercer d'une manière différente sur les enfants et que ça va répondre à des soins très différents. Il y a des parents qui vont être très autonomes. C'est pour ça qu'il y a des circuits en libéral qui se créent avec des enfants qui vont pas si mal que ça. Mais parce qu'ils arrivent à coordonner les soins, parce qu'ils arrivent à comprendre ce qu'il faut pour leur enfant, parce qu'ils arrivent à maintenir l'intensité qu'il faut pendant des années, on ne va pas soigner l'autisme en 3 mois. Donc ça veut dire que c'est des parents qui s'engagent pour des années, parfois qui renoncent à travailler. Et puis il y a d'autres parents qui ne peuvent pas le faire. Voilà. Moi, je travaille dans un hôpital de jour à Marseille. Bien que ce soit les quartiers plutôt aisés de Marseille, on a des parents qui, dans l'hôpital de jour, ne pourraient pas le faire. Donc ils viennent à l'hôpital de jour. Et les hôpitaux de jour, ils ne se vident pas actuellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas des places vacantes dans les hôpitaux de jour. On a plus d'enfants et certains vont en libéral, certains ne sont pas soignés et certains viennent dans les hôpitaux de jour.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, Daniel Sechter, médecin des hôpitaux, professeur de psychiatrie générale au CHU de Besançon. Mon premier temps de gymnastique, c'est justement de réfléchir en termes de psychiatre généraliste. Je remercie mes amis cliniciens d'avoir insisté sur la complexité et l'évolution des diagnostics. Mais est-ce que c'est si différent que ça entre la psychiatrie du bébé, de l'enfant, de l'adolescent que celle de l'adulte et du sujet âgé ? Est-ce qu'en termes cliniques, dans les troubles des interactions et de la communication, dans les déficits des intérêts, dans les troubles émotionnels qui y sont associés et affectifs, est-ce que ce n'est pas le type de symptômes que l'on retrouve chez les sujets qui souffrent de troubles psychotiques dits schizophréniques ? Ou chez les sujets plus âgés, de troubles psychotiques dits psychoses hallucinatoires chroniques. Donc ça, c'est sur l'aspect clinique, au niveau d'une approche dimensionnelle, qui serait avec la compréhension d'un processus psycho-neurodéveloppemental qui pourrait s'exprimer de façon un peu différente s'il nous touche particulièrement tôt ou s'il nous touche particulièrement tard. Et que par rapport à ces aspects, le fait de réfléchir en termes de psychiatrie général avec des expressions à différents moments de l'évolution de la vie, peut permettre là aussi de nous retrouver et de plus être dans les positions idéologiques qu'on a connues dans les temps anciens et où les jeunes ont justement ces ouvertures d'avoir des approches de compréhension psycho-neurodéveloppementale et que le travail individualisé avec les familles et avec les parents se fait maintenant en ouvrant ces différents aspects et en n'étant plus dans ce qu'on a connu de la culpabilisation des familles et des parents.
C'est une question un peu complexe pour y répondre comme ça. Si tu veux dire que il y a un modèle neurodéveloppemental qui pourrait, psychoneurodéveloppemental, qui pourrait concerner une grande partie des maladies psychiatriques, je comprends ce que tu veux dire. Mais en termes cliniques, on est confronté à des choses très différentes parce qu'on a affaire à des développements très précoces d'enfants pour lesquels le but principal du soin, c'est d'éviter l'évolution déficitaire. Sans les soins, c'est des enfants qui avaient une absence de langage et un déficit intellectuel profond. Actuellement, on peut dire que le pronostic est tout à fait transformé. Donc, faut que parfois, les psychiatres sont accusés de manière assez injuste quand on voit toute l'évolution qu'il y a eu depuis les arriérations de psychose du 19e siècle et le pronostic actuel. Je pense qu'il y a certains médecins ou certains parents qui ne se rendent pas compte de cette évolution spontanée et de ce que les soins qui se sont modifiés au fur et à mesure, en passant par l'hôpital de jour, puis par des soins séquentiels plus efficaces, ont pu apporter. Mais après, le risque dans ta question, c'est qu'on revienne à des processus unitaires. Je ne suis pas assez compétent pour répondre sur la question d'un trouble neurodéveloppemental qui concernerait aussi la psychiatrie d'adulte. Je pense que ça ne s'exprime pas au même moment, donc je ne pourrais pas en dire plus là, par rapport à la deuxième partie de ta question.
Dernière question.
Oui, je voulais avoir ton sentiment, donc Michel Dunia, pédopsychiatre à Marseille et Avignon, sur une question extrêmement concrète et qui a été soulevée par le docteur Pernel, qui est celle de la bonne formation des équipes au Danvers, puisque j'espère que tout le monde a compris que le DSM et le Danvers, c'est la même chose. Tout à fait prosaïquement, extrêmement concrètement, qu'est-ce que tu proposerais à un niveau un peu global pour mettre à jour les pratiques dans les hôpitaux de jour?
Oui, le SDM, c'est la partie précoce du Denver, qui est une méthode qui peut s'appliquer à d'autres âges, alors que le SDM, c'est vraiment l'early start Denver model, c'est-à-dire vraiment pour les petits. Alors, les CRA, ils ont cette mission, c'est-à-dire qu'ils devraient apporter la bonne parole. C'est évidemment la politique de l'autisme, avec un financement qui permettrait de dire aux autres ce qu'il faut faire. On a été quand même assez prudent pour pas exactement dire les choses comme ça, pour montrer plutôt que la nécessité du diagnostic, elle s'impose comme dans d'autres champs de la médecine, parce qu'il ne faut pas toujours imaginer que c'est des problèmes extrêmement spécifiques à la psychiatrie de l'enfant ou à l'autisme. Il y a quand même une évolution des mœurs et l'idée que les patients sont plus des usagers, sont plus acteurs de leur santé, ont besoin d'avoir leur diagnostic, d'aller voir les médecins et de faire les traitements qu'ils veulent faire. Donc il y a quand même un mouvement général qui est plus partagé que ce qu'on croit. En France, il est probable qu'on a plus résisté au diagnostic que dans d'autres pays, que dans les pays anglo-saxons. Donc l'idée d'avoir des diagnostics plus formalisés, plus précoces, et de les écrire en particulier, de faire des comptes rendus, ce n'était pas une idée partagée. Ça a été une première étape pour aller vers un consensus sur des classifications, ce qui n'est pas évident non plus, puisqu'il y a une classification française qui a résisté à la classification internationale. Et puis, deuxième chose, les missions se sont étendues, il y a eu 3 plans autisme successifs, et l'idée, c'est d'avoir un maillage territorial, c'est-à-dire que ce ne soit pas que les CRA. Ça a bien marché dans notre région, nous on a un maillage territorial qui a été relativement consensuel, avec des psychiatres des intersecteurs qui se sont engagés. Alors évidemment, après, il s'agit, une fois que ces consensus-là sont à peu près acquis, il s'agit de former les équipes. C'est très compliqué de former les équipes parce qu'on a 2 écueils. Premièrement, c'est beaucoup d'argent. Il faut se rendre compte que c'est un domaine dans lequel les formations coûtent cher. Il y a des labellisations, il y a même des instruments protégés. Il y a des équipes qui tournent, il y a des boulots difficiles avec des personnes qui sont tout le temps nouvelles. On n'a pas forcément une facilité à maintenir des équipes qui seraient toujours les mêmes, qui seraient formées. Et puis deuxième chose, je crois qu'il ne faut pas imaginer que la formation, elle va tout résoudre. Il y a un manque de place qui est énorme, qui n'est pas uniquement la question de la formation. C'est-à-dire que si on était dans un système dans lequel il y avait des places pour tous les enfants, on pourrait poser les choses tranquillement en disant, bon, les enfants ont des places dans nos hôpitaux de jour ou dans nos consultations ou dans les méthodes spécialisées, mais la condition pour venir travailler sur ces places soignantes, c'est de former les gens. Actuellement, je pense que la plupart des équipes arrivent à peine à mettre la tête hors de l'eau, donc ont beaucoup, beaucoup de mal à en plus imaginer des grands plans de formation pour pour l'ensemble. Voilà, moi je trouve que c'est la formation, c'est malheureusement ce que les directeurs d'hôpitaux, excusez-moi, ou les ARS nous disent, comme si ça allait résoudre un problème essentiel actuellement. Vous l'avez vu avec les chiffres que j'ai donnés, c'est que de toute façon on dépiste des enfants qui n'ont pas de possibilité de soins. Voilà, nous à Marseille, on a une région qui est moins équipée que les Parisiens. Je ne sais pas comment c'est dans toutes les régions, je le sais un petit peu quand même par certains échanges, mais disons qu'à Paris, il y a quand même un équipement qu'on n'a pas en général en province. Le grand dilemme éthique, c'est qu'on dépiste des enfants qui vont rester parfois entre un an, deux ans, trois ans sans soins ou avec des soins extrêmement minimes. Alors le gouvernement ou les ARS nous disent « Non, mais vous avez bien vu qu'on peut leur donner déjà des soins en orthophonie. » Alors déjà, on va parler de soins en orthophonie. Mais même les orthophonistes, elles ne sont pas disponibles autant qu'on le croit. Il y a des endroits où il n'y a pas d'orthophonistes. Il y a des orthophonistes qui ne veulent pas recevoir de jeunes enfants autistes si elles sont seules, etc., etc. Voilà. Donc moi, je crois qu'actuellement, il y a une catastrophe sanitaire. Mais elle se résout souvent par des prestations. C'est-à-dire que si, malgré les associations qui font entendre leur voix, on n'est pas tant dans des difficultés... Qui sont tellement dites, je trouve, au fond, dans les médias. Moi, je suis assez content des polémiques parce que je trouve qu'il y a un vrai problème. C'est parce qu'elles se résolvent, ces difficultés, par des prestations. On donne des prestations à des familles qui gardent leurs enfants chez eux. Voilà. Donc, on en est là. Hein. Je ne sais pas si vous aurez envie de rebondir dans la matinée là-dessus.
Non, alors, on ne va pas pouvoir rebondir pour des questions de temps, mais j'imagine que dans la salle, on aura envie de réagir à vos propos. On va conclure avec Christophe Schmitt.
Oui, je conclurai un peu sur la fin de votre exposé, où je me dis qu'il serait quand même important de réhabiliter les psychothérapies dans le cadre des troubles du spectre autistique. Peut-être d'abord en faisant comprendre aux familles que psychothérapie, c'est pas la psychanalyse. La psychanalyse est une psychothérapie parmi d'autres psychothérapies, et que... Enfin, moi, je sais, en pratique, ça fait belle lurette que... Bon, moi, je suis sorti de l'internat en 1988. Ça fait belle lurette qu'on ne fait plus de psychanalyse des enfants autistes. Enfin, faut quand même, il y a peut-être un mythe, quand même, qu'il faudrait faire s'effondrer. Donc, là, et en particulier, moi, je vois avec ces grands adolescents ou jeunes adultes Asperger ou assimilé, la psychothérapie, le soutien psychologique, il est primordial, essentiel. Enfin, moi, je le mesure dans ma pratique quotidienne. Et puis, l'aspect psychothérapie institutionnelle, certes, la psychothérapie institutionnelle, on sait qu'elle est sous-tendue dans les conceptualisations par la psychanalyse, mais en même temps, la lecture du symptôme, enfin, moi, je le vois dans mes contacts avec les établissements médico-sociaux, qui viennent nous voir parce qu'ils ont des difficultés avec des graves troubles du comportement avec des autistes, ben, quand on arrive à discuter avec les équipes, qu'on arrive à mettre à plat, qu'on arrive à aller au-delà de la simple dimension comportementale, bien souvent, on avance. Alors, effectivement, c'est plus tout à fait la psychothérapie institutionnelle telle qu'on la concevait, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai débuté mon internat. Néanmoins, cette lecture-là, elle est extrême. Enfin, pour moi, elle est primordiale à apporter. Et je peux vous dire que chaque fois qu'on discute avec une équipe d'un établissement médico-social, qu'on réunit les éducateurs, l'infirmière, le directeur ou le semi-directeur, ils sont extrêmement satisfaits de ce qu'on peut leur apporter dans cette lecture, et que des fois, il y a des difficultés qui se lèvent sans même le recours à l'hospitalisation. Donc je crois que ça, c'est quand même très important de le souligner. Et je crois que là, on a vraiment un effort à faire pour, de notre côté, réhabiliter un certain nombre de nos techniques qui ont été attaquées, je pense, à juste titre, dans des excès, voilà, mais qui maintenant, enfin voilà, on jette le bébé avec l'eau du bain.
Merci au professeur Poinceau, qu'on va pouvoir applaudir pour cette intervention.